Lecture nomade en trio. Avec Claudine.
Geneviève.
Et Christiane.
Pour voyager.
Pour rêver.
Pour vagabonder.
S'évader.
Et s'indigner, parfois.
Le jour même, dans l'après-midi, elle déclara à la maisonnée qu'elle lirait à haute voix le soir, après la traite et le coucher des enfants. Tous ceux qui en avaient envie étaient les bienvenus au grand salon. Maintenant, en plein préparatif de Noël, elle mélangea elle-même du sirop et de l'eau dans une grande cruche et demanda à sa sœur Hélène, actuellement gouvernante chez eux, de préparer un grand plat de crêpes. Ils vinrent tous, les garçons de ferme de l'annexe, Christopher et Daniel de la boutique, les servantes. On ne pouvait pas laisser passer cette occasion, celle de venir dans le grand salon prendre un verre de sirop de framboise et manger quelques pâtisseries. Quant à la lecture, ce n'était pas si grave. On aurait toujours la patience de l'écouter. Sarah Suzanne ne savait pas trop comment s'y prendre. Elle ne possédait pas sa voix à lui, ni la faculté qu'il avait à se faire écouter. Il lui fallait trouver en elle quelque chose qu'elle ignorait posséder, montrer une partie cachée de sa personnalité. Elle se sentait forcée. Il fallait sortir de cet engrenage, de ce vide. Les premières lignes furent les pires. Elles firent les mots qui devaient être dits, mais au premier essai, elle entendit que les mots n'avaient aucune portée. Sa respiration ne trouvait pas de place dans sa poitrine. Elle s'arrêta un instant, éprouva le besoin de se lever. Ils étaient assis à la regarder, tous attendant. La voix de Fritz résonnait dans sa tête, basse mais distincte. Le secret était de trouver son propre rythme. N'était-ce pas ce qu'il avait dit ? Si, justement. Elle aspira et reprit sa lecture. Maintenant, cela coulait de source. Les mots trouvaient leur voie dans la pièce comme les ruisseaux d'un lac de montagne débordant. Et elle entra au cœur du sujet.
Vers les dents pour les bois et l'ennui mon courbeau l'autre. Ils arrivent à le ventre alourdi de fruits les bateaux. Un poteau d'abeco décide par la fondue rebelde si elle veut des mirages. Rien n'a pas fond pauvre des paysans connus de télé, c'était l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de beau.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parlait des filles et d'amour, un verre à la main. Je perds une notion de choses et sous ma pensée, mon lumière me dépose un bébé, yo c'était sous le crème. Où je vais tendre le bras, moi comme un foucoureau devant de moi, je me pongo au bout de mon rêve. Quand les bars fermés que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Un beau jour, sur un rafio craquant de la coco-po, pour partir travailler et donc la soute à chabot. Près de la route qui mène à ma rêve d'en face ou des îles, loin de nous rien n'est important que de vivre. Les filles salon qui vous ravissent les colons, tes sombres attendis des écoliers de fleurs qui enivrent. J'ai fuiré les sons, la mon passé sans aucun remords. Sans barrage, il le con libéré en chantant très fort.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Oye, mes chicos, pero mira que bueno está esto.
Thank you.
Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeur des villes, le soir et au soleil, et toujours. Assez connu, les arrêts de la vie, ô rumeur et vision. Départ dans l'affection et le bruit neuf.
Cher pays, oui, il faut dire cher pays, le roi dit bien mon cher peuple. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. J'ai enfin la possibilité, la chance de m'en aller, de te quitter, de ne plus respirer ton air, de ne plus subir les vexations et humiliations de ta police. Je pars, le cœur ouvert, le regard fixé sur l'horizon, fixé sur l'avenir. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je suis prêt à changer, prêt à vivre libre, à être utile, à entreprendre des choses qui feront de moi un homme debout, un homme qui n'a plus peur, qui n'attend pas que sa sœur lui file les quelques billets pour sortir acheter des cigarettes. Un homme qui n'aura plus jamais affaire à El Afia, le truand, le salaud qui trafique et corrompt. Qui ne sera plus le rabatteur d'El Hadj, ce vieillard sénile qui tripote les filles sans coucher avec elles. Qui ne fera plus les petits boulots. Qui n'aura plus besoin de montrer son diplôme pour dire qu'il ne sert à rien. Je m'en vais, mon cher pays. Je traverse la frontière. Je me dirige vers d'autres lieux, muni d'un contrat de travail. Je vais enfin gagner ma vie. Ma terre n'a pas été clémente, ni avec moi, ni avec beaucoup de jeunes de ma génération. Nous croyions que les études nous ouvriraient des portes, que le Maroc en finirait avec les privilèges, avec l'arbitraire. Mais tout le monde nous a lâchés. Il a donc fallu se débrouiller, faire n'importe quoi pour arriver à s'en sortir. Certains ont frappé à la bonne porte, ont été prêts à tout accepter. D'autres ont dû, au contraire, se battre. Mais, cher pays, je ne te quitte pas définitivement. Tu me prêtes seulement aux Espagnols, nos voisins, nos amis. Nous les connaissons bien. Longtemps, ils ont été aussi pauvres que nous. Et puis un jour, Franco est mort. La démocratie est arrivée, suivie de la prospérité et de la liberté. J'ai appris tout cela à la terrasse des cafés. C'est un endroit que nous autres Marocains avons choisi pour scruter sans trêve les côtes espagnoles et réciter en chœur l'histoire de ce beau pays. Nous avons fini par entendre des voix, persuadées qu'à force de fixer les côtes, une sirène ou un ange aurait pitié de nous et viendrait nous prendre par la main pour nous faire traverser le détroit. La folie lentement nous guettait. C'est comme ça que le petit Rachid s'est retrouvé interné à l'hôpital psychiatrique de Beni Makkada. Personne ne savait de quel mal il souffrait. Il ne répétait plus qu'un seul mot, « Spania », et refusait de s'alimenter, espérant devenir assez léger pour s'envoler sur les ailes de l'ange. Ô mon pays, ma volonté contrariée, mon désir brûlé, mon regret principal, tu gardes auprès de toi ma mère, ma sœur et quelques amis. Tu es mon soleil et ma tristesse. Je te les confie, car je reviendrai et je veux les retrouver en bonne santé, surtout ma petite famille. Mais débarrasse-nous de ces voyous qui te saignent parce qu'ils trouvent des protections là où ils devraient rencontrer la justice et la prison. Débarrasse-nous de ces brutes qui ne connaissent la loi que pour la détourner. Rien ne les arrête. L'argent, comme dit ma mère, donne du sucre aux choses amères. Je ne suis pas un type très moral. Je suis loin d'être parfait, ni absolument correct. Je ne suis qu'une miette dans ce festin où les convives sont toujours les mêmes, où le pauvre sera toujours suspect et sa pauvreté un délit, une faute. « L'argent est là, mon vieux, il suffit de le prendre !» me répétait souvent Alafia. « Pour ne plus être pauvre, tu n'as qu'à te décider !» J'ai été tentée, moi aussi, de faire comme les autres. Une main, pourtant, la main de ma mère, la main de mon père que j'ai peu connu, m'ont remis sur le droit chemin. Merci à eux, merci de ne pas avoir choisi la facilité. Mais je dois m'arrêter ici d'écrire. J'ai sommeil. Je m'imagine dans l'avion. Je n'ai pas peur, je suis excitée. Curieux, cher pays, de te voir d'en haut. J'espère que le pilote aura la bonne idée de survoler, juste pour moi, Tanger pour que je lui dise au revoir. Pour que je devine qui est dans cette cabane qu'on voit de loin. Qui souffre entre ces murs fissurés. Qui vit dans ce bidonville. Et combien de temps encore cette misère sera supportable.
Il se trouvait que le médecin de la Lorraine n'était pas encore désigné, et Pierre eut la chance d'être nommé en quelques jours. Le pli qui l'en prévenait lui fut remis par la bonne Joséphine un matin, comme il finissait sa toilette. Sa première émotion fut celle du condamné à mort à qui on annonce sa peine commuée. Et il sentit immédiatement sa souffrance adoucie un peu par la pensée de ce départ et de cette vie calme, toujours bercée par l'eau qui roule, toujours errante, toujours fuyante. Il vivait maintenant dans la maison paternelle, un étranger, muet et réservé. Depuis le soir où il avait laissé s'échapper, devant son frère, l'infâme secret découvert par lui, il sentait qu'il avait brisé les dernières attaches avec les siens. Un remords le harcelait d'avoir dit cette chose à Jean. Il se jugeait odieux, malpropre, méchant. Et cependant, il était soulagé d'avoir parlé. Quand il eut reçu la lettre lui annonçant sa nomination, il la présenta le jour même à sa famille. Il alla, après le déjeuner, au bureau de la compagnie afin de se renseigner sur mille choses. Et il demanda le nom du médecin de la Picardie, qui devait partir le lendemain pour s'informer près de lui de tous les détails de sa nouvelle vie et des particularités qu'il devait y rencontrer. Le docteur Pirette étant à bord, il s'y rendit et il fut reçu dans une petite chambre de paquebot par un jeune homme à barbe blonde qui ressemblait à son frère. Ils causèrent longtemps. En ces heures de plus grande souffrance, il ne s'était jamais senti plongé ainsi dans un cloaque de misère. C'est que la dernière déchirure était faite. Il ne tenait plus à rien. En arrachant de son cœur les racines de toutes ses tendresses, il n'avait pas éprouvé encore cette détresse de chien perdu qui venait soudain de le saisir. Ce n'était plus une douleur morale et torturante, mais l'affolement d'une bête sans abri, une angoisse matérielle d'être errant qui n'a plus de toit, et que la pluie, le vent, l'orage, toutes les forces brutales du monde vont assaillir. En mettant le pied sur ce paquebot, en entrant dans cette chambrette balancée sur les vagues, la chair de l'homme qui a toujours dormi dans un lit immobile et tranquille, s'était révoltée contre l'insécurité de tous les lendemains futurs. Jusqu'alors, elle s'était sentie protégée, cette chair, par le mur solide, enfoncé dans la terre qui le tient, et par la certitude du repos à la même place, sous le toit qui résiste au vent. Maintenant, tout ce qu'on aime braver dans la chaleur du logis fermé deviendrait un danger et une constante souffrance. Plus de sol sous les pas, mais la mer qui roule, qui gronde, qui engloutit. Plus d'espace autour de soi pour se promener, courir, se perdre par les chemins, mais quelques mètres de planche pour marcher comme un condamné au milieu d'autres prisonniers. Plus d'arbres, de jardins, de rues, de maisons, rien que de l'eau et des nuages. Et sans cesse, il se sentirait remué, ce navire sous ses pieds, Les jours d'orage, il faudrait s'appuyer aux cloisons, s'accrocher aux portes, se cramponner au bord de la couchette étroite pour ne point rouler par terre. Les jours de calme, il entendrait la trépidation ronflante de l'hélice et sentirait fuir ce bateau qui le porte d'une fuite continue, régulière, exaspérante. Il allait devant lui, défaillant à présent sous la mélancolie désolée des gens qui vont s'expatrier. Il ne se sentait plus au cœur ce mépris hautain, cette haine dédaigneuse pour les inconnus qui passent, mais une triste envie de leur parler, de leur dire qu'il allait quitter la France, d'être écouté et consolé. C'était au fond de lui un besoin honteux de pauvre qui va tendre la main, un besoin timide et fort de sentir quelqu'un souffrir de son départ.
Le vendredi soir, nous allâmes au lieu du rendez-vous, une crique sauvage, non loin du port. Lorsque je vis l'exiguïté de la barque et le nombre de candidats sur les rochers, je crus à une erreur. « Boub, dépêche-toi, poussons-nous devant, nous sommes trop nombreux, les passeurs vont être obligés de sélectionner. » Boub joua des coudes. Nous arrivâmes parmi les 10 premiers pour tendre notre argent aux hommes patibulaires qui organisaient l'expédition. Puis nous sautâmes dans l'esquif. De façon inattendue, je ne me sentis rassurée qu'après avoir quitté le sol ferme. Cependant, les embarcations se poursuivaient. De plus en plus à l'étroit, les clandestins, tassés sur les bancs, protestèrent, puis insultèrent ceux de la terre. Ceux-là répondirent avec autant de violence. Le bois craqua. Pendant cette joute verbale, les malabars, réguliers, calmes, inexorables, aidaient leurs clients à monter. Au fur et à mesure, la coque s'enfonçait davantage dans les flots. Avant que le dernier ne s'installât, nous avions compris que nous effectuerions le voyage à 50 sur une barque conçue pour 10. Nous avions presque honte d'avoir osé protester. La tête basse, j'accrochais mes doigts crispés au rebord. Ainsi, je ne devrais pas seulement supporter la mer, mais la promiscuité. Cela augurait mal de la traversée. Tu vois, Boub, dans cet espace, on n'est pas plus serré que les fans des sirènes pendant leur concert. Mais ça fait un autre effet. T'inquiète pas, Saab, gémit Boub. Lors de sa réponse, je sentis une odeur fétide. Et en plus, ça pue, dis-je pour rire. Tu nous prends des billets au tarif business et ça pue. C'est moi, Saad, qui pue. J'ai peur. Je jouais des épaules pour me trouver face à lui. Sous la lumière de la lune, je n'aperçus que ses yeux effrayés, les gouttes qui ruisselaient de son front, et je reçus sur la figure son souffle chargé, rendu plus lourd, plus acide par l'angoisse. Tu n'aimes pas l'eau, Boub ? Je ne sais pas nager. Le voyant si paniqué, je cessai de penser à moi, à mes appréhensions, et je m'attachais à le soulager. « Pourquoi nager ? Je ne crois pas que tu aies besoin de te mettre à l'eau pour nous pousser. J'ai vu un moteur, et ça sent furieusement le gasoil. »« Le gasoil ? Si on ne coule pas, on peut prendre feu. Oui, on pourrait même réussir les deux. Griller d'abord, et puis noyer nos cendres. Joli méchoui pour les poissons. Ça te va comme programme ?» Le bateau démarra. Cette nuit-là, je m'obligeais à me raisonner. Ne pas vomir, ne pas perdre connaissance, m'occuper de Boub qui tremblait comme une feuille. À force de lui expliquer que la navigation se déroulait au mieux, que cette embarcation fonctionnait à merveille, je finis par m'en convaincre. Bien sûr, pas question de dormir, car nous n'avions pas la place de tenir debout sans recevoir 3 bras dans les côtes, encore moins celle de nous allonger. À l'aube, je discernais mieux quel étrange convoi nous formions. Beaucoup de Noirs, femmes, hommes, enfants, pour la plupart des Bangladais, ainsi que quelques Égyptiens venant de Zagazig, du delta du Nil. Tous, ou presque, redoutaient la mer et l'eau. Tous souffraient déjà de soif et de faim. Et à mesure que le soleil gagnait le zénith, tous commencèrent à redouter la chaleur. Indifférents aux cris, aux craintes, aux menaces, le marin fixait l'horizon et maintenait son rythme de croisière. Au milieu de l'après-midi, une voix cria « Là-bas, là-bas, il y a quelqu'un !» Abandonnant son mutisme et sa rigidité, le marin demanda des précisions et se dirigea vers le point. Nous distinguâmes, sur les vagues, un homme blessé, aux vêtements en lambeaux, agrippé à un filet pour pêcher le thon. Il parvint à lever un bras faible. « Il est vivant » criai-je, « il est encore vivant !» En réponse immédiate, le marin orienta le navire dans la direction opposée, reprenant son axe précédent. Il allait contourner l'homme sans le repêcher. Je protestais. Le marin joua celui qui n'entendait pas. Et puis comme j'insistais, il finit par me gueuler dessus. « Tu la fermes maintenant. Je suis là pour vous amener à Lampedusa. Je n'ai pas le temps de jouer les sauveteurs. » Mais les lois de la mer, les lois de la mer, qu'est-ce que tu en sais, toi, l'Irakien? Si je vois un marin en mer, je le sauve. Mais on n'a jamais vu encore un marin pendu à un filet de thon. Le crétin que tu as vu, c'est un crétin comme toi. Un crétin qui est tombé d'un bateau comme celui sur lequel tu es. Un crétin qui a payé quelqu'un d'autre que moi pour l'amener à Lampedusa. Moi, je ne suis pas responsable de lui, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, si tu n'es pas content, tu plonges pour le rejoindre. D'accord ? Boob glissa sa tête dans mon cou et me suggéra avec douceur. « Je pense que tu es d'accord, mais ne l'énerve pas davantage, s'il te plaît, pour moi. » Le voyage se poursuivit et nous pûmes mieux comprendre ce qui était sans doute passé. À mesure que nous avancions, nous apercevions des formes suspectes flotter sur l'eau. Si les premières purent être identifiées comme des chaussures, des valises, des vêtements, certains amas ressemblaient bien à des humains. Bientôt, il n'y eut plus moyen d'avoir des doutes. Des cadavres de femmes, d'hommes, d'enfants voguaient autour de nous. Un bâtiment avait dû couler et envoyer son chargement à la noyade.
Jacob tourna la clé de contact et la voiture démarra. Il passa les dernières villas de la station et se trouva dans un vaste paysage. Il savait qu'il avait environ 4 heures de route jusqu'à la frontière et il ne voulait pas se presser. L'idée qu'il roulait par ici pour la dernière fois rendait ce paysage cher à son cœur et insolite. Il avait à tout moment l'impression qu'il ne le connaissait pas, qu'il était différent de ce qu'il imaginait et qu'il était dommage de ne pouvoir y demeurer plus longtemps. Mais il se dit aussitôt que tout ajournement de son départ, que ce soit d'un jour ou de plusieurs années, ne pourrait de toute façon rien changer à ce qui le faisait maintenant souffrir. Il ne connaîtrait pas ce paysage plus intimement qu'il le connaissait aujourd'hui. Il devait accepter l'idée qu'il allait le quitter sans le connaître, sans en avoir épuisé les charmes. Qu'il allait le quitter à la fois comme un débiteur et comme un créancier. Il roulait lentement et il interrompait ses réflexions pour regarder le paysage. La campagne était envahie d'une pénombre molle. Jacob arrêta la voiture dans un village situé à quelques kilomètres seulement du poste de frontière. Il voulait prolonger encore les derniers instants qu'il passait dans son pays. Il descendit de la voiture et fit quelques pas dans la rue du village. Cette rue n'était pas belle. Le long des maisons basses traînaient des rouleaux de fil de fer rouillés, une roue de tracteur abandonnée, des morceaux de vieux métal. C'était un village négligé et laid. Jacob se dit que cette décharge parsemée de fil de fer rouillés était comme un mot obscène que son pays natal lui adressait en guise d'adieu. Il marcha jusqu'à l'extrémité de la rue où il y avait une place avec une mare. La mare aussi était négligée, recouverte de lentilles d'eau. Au bord, barbotaient quelques oies qu'un jeune garçon tentait ou tenait de pousser devant lui avec une baguette. Jacob fit demi-tour pour regagner la voiture. Il aperçut un gamin debout derrière la vitre d'une maison. Le gamin, auquel on donnait à peine 5 ans, regardait à travers la vitre en direction de la mare. Il observait peut-être les oies, peut-être le jeune garçon qui cinglait les oies du bout de sa baguette. Il était derrière la vitre et Jacob ne pouvait détacher de lui son regard. C'était un visage enfantin, mais ce qui captivait Jacob, c'était les lunettes. L'enfant portait de grandes lunettes dont on devinait les verres épais. La tête était petite et les lunettes étaient grandes. L'enfant les portait comme un fardeau. Il les portait comme son destin. Il regardait à travers les anneaux de ses lunettes comme à travers un grillage. Oui, il portait ces deux anneaux comme un grillage qu'il lui faudrait traîner avec lui toute sa vie. Et Jacob regardait les yeux du gamin à travers le grillage des lunettes et il se sentait tout à coup plein d'une grande tristesse. Ce fut soudain comme d'une rivière dont les berges viennent de céder et l'eau se répand dans la campagne. Il y avait si longtemps que Jacob n'avait été triste. Tant d'années. Il ne connaissait que l'aigreur, l'amertume, mais pas la tristesse. Et voici qu'il en était assailli et qu'il ne pouvait plus bouger. Il voyait devant lui l'enfant vêtu d'un grillage et il avait pitié de cet enfant et de tout son pays. Et il songeait que ce pays, il l'avait peu aimé et mal aimé. Et il était triste à cause de cet amour mauvais et raté. Et l'idée lui vint tout d'un coup que c'était l'orgueil qui l'avait empêché d'aimer ce pays, l'orgueil de la noblesse, de la grandeur d'âme, de la délicatesse. Un orgueil insensé qui faisait qu'il n'aimait pas ses semblables et qu'il les détestait parce qu'il voyait en eux des assassins. Il se dirigea d'un pas rapide vers la voiture, ouvrit, se mit au volant et repartit vers la frontière. La veille encore, il pensait que ce serait un instant de soulagement, qu'il partirait d'ici avec joie, qu'il quitterait un lieu où il était venu au monde par erreur et où, en fait, il n'était pas chez lui. Mais à cet instant, il savait qu'il quittait son unique patrie et qu'il n'y en avait pas d'autre. Lecture nomade en trio.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
surtout ne te retourne pas. Pars, fais ce que tu dois faire. Sans moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Alors pars, et surtout ne te retourne pas.
Avec moi.
C'est drôle. Quand il joue,
il est comme toi.
Impatient. Il a du cœur, il aime la vie et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars. Surtout
faut que je trouve la force de repousser le chat. Se lever de son lit demande une énergie formidable, surtout pour changer de vie. Cette envie de faire demi-tour lorsqu'on est au bord de saisir ce que l'on désire. Certains hommes font volte-face au moment crucial. J'ai peur d'appartenir à cette espèce. Le camion de Micha est chargé ras la gueule. Pour atteindre le lac, 5 heures de route à travers des steppes englacées, une navigation par les sommets et les creux d'une houle pétrifiée. Des villages fument au pied des collines, vapeurs échouées sur des hauts fonds. Devant pareille vision, Malevitch écrit « Quiconque a traversé la Sibérie ne pourra plus jamais prétendre au bonheur. » Au sommet d'une croupe, le lac apparaît. On s'arrête pour boire. Cette question, après 4 rasades de vodka, par quel miracle la ligne du littoral épouse-t-elle aussi parfaitement les contours de l'eau? Nous avons passé la nuit dans le village de Kougir, sur l'île d'Okron, à la nordique, dit-on. Et nous roulons vers le nord. Micha ne dit pas un mot. J'admire les gens mutiques. Je m'imagine leurs pensées. Je fais route vers le lieu de mes rêves. L'atmosphère est lugubre. Le froid a lâché ses cheveux dans le vent. Les filandres de neige fuient devant les roues. La tempête s'immisce dans l'interstice laissé entre le ciel et la glace. Je regarde la rive, essaie de ne pas penser que je vais vivre 6 mois dans ces forêts de requiem. Il y a là tous les ingrédients de l'imagerie sibérienne de la déportation. L'immensité, la lueur livide. La glace a des airs de linceul. Des innocents étaient jetés 25 ans dans ce cauchemar. Moi, je vais y séjourner de mon gré. De quoi me plaindrais-je ?
La porte d'entrée pour rejoindre là-bas. Tu sais bien, là-bas, nous en avons si souvent causé. J'ai trouvé la clé pour d'un coup s'y rendre. Pas très difficile, pas sûr, mais bon. Tu viens, oui ou non, avec moi, tu veux venir ou pas? On avait dit qu'ensemble on irait, qu'on resterait toujours et que là-bas on se rendrait pour à présent vivre, trouver bonheur et prospérité. Pas ça qu'on avait dit? Pas ça le projet qu'on avait? Bon, tu me suis et je te montre. Tu mets tes pas dans les miens et nous allons doucement, catimini ou genre, sur le chemin de là-bas, sentier interdit et dangereux. Allez, par là. Reste bien derrière. Voilà, un peu encore. À gauche d'abord, et puis on se baisse. Le barbelé, là, on passe dessous. Attention. C'est bon? Voilà, c'est là. Là, tu vois? Je sais bien que c'est l'aéroport. Là, au bout de la piste, dans les mirages que la chaleur produit, qu'est-ce que c'est que tu vois? C'est ça la porte de là-bas, bonheur. Voilà, l'avion. Là, tu vois? Au bout de mon doigt, les roues, là. Une fois que l'avion, il s'élève, elle rentre. Elle se range, disons, à l'intérieur, mais bon, pas dans les jambes de ceux qui filent vers là-bas, non, dans un intérieur rien qu'à elle. Au chaud et à l'abri, à patienter tranquille que ce soit l'arrivée, que l'avion au-dessus de là-bas, il arrive. Et alors, hop, au boulot, elle ressorte. On me l'a dit, c'est tout. Qu'est-ce que ça fout, quelqu'un qui sait quoi, qui sait mieux que nous, qui des avions a toute connaissance, a dû sans doute un temps auprès des avions travailler. T'as peur ou bien quoi? Tout prévu, je t'ai dit. Une bonne place pour nous, il y a. Juste se glisser aux côtés de la roue, rester bien contre elle et attendre avec elle l'arrivée. T'imagines? Dans le ciel, on va être. Au-dessus de chez nous et puis après au-dessus des tas de pays et des mers et des montagnes aussi. T'imagines? Je sais pas, 3, 4 heures, 5 peut-être. Comme les autres pratiquement. Ceux dedans, quelle différence? Le repas, bon, on mangera là-bas, du manger de là-bas. T'imagines la vie changée, nouvelle, qu'on va se faire là-bas, une fois là-bas atterri. Plus rien de soucis là-bas, tout beau, tout facile, vie magnifique, couleur et tout. 3 pantalons, 2 t-shirts, 2 chemises et puis des pulls. La veste aussi, et puis le bonnet sur la tête. Pays bonheur là-bas, mais bonheur avec hiver et froid, neige même. Sandales en plastique bleu. Pas trouvé autre chose, pas eu le temps. Des gants, gants de laine. Recroquevillé. Et puis le bruit. Le bruit assourdissant du moteur mis en marche. Des moteurs peut-être. Oui, sûr. De chaque côté. Vacarme sans nom. D'abord main sur les tympans, mais même pas. Alors à quoi bon? Le mouvement, la circulation lente et puis la vitesse comme sur la moto. Et puis, qu'est-ce que c'est qui arrive? Comment? C'est ce qui soulève le cœur? Lentement s'éloigner du sol, s'élever. Je sais bien comment c'est l'avion, vu tant de fois les avions de la piste s'élever. Dans le ciel s'éloigner. La roue qui vient doucement se ranger et l'espace alors minuscule, recroquevillé plus encore et le bruit, lui, strident davantage. Tête explosée, pas loin. Respire. Dans le ciel, voler près des oiseaux et traverser les nuages. Nuages, avez-vous vu? Près de vous à circuler, s'éloigner vers là-bas, lentement s'approcher. Respire. Difficile. Mal tempe, tempe, ça qui bourdonne, nuit noire et pourtant tas de lumière éblouie, déjà là-bas. Pulsation. Respire. Mal à bouger, doigts, bras, jambes, tourner tête, tenir tête, garder œil ouvert, mais pourquoi? Quel besoin bouger? Attente. Douloureux mon cœur. Vol à côté des oiseaux qui remontent vers le nord, pôle nord par là. Froid, terrible froid, difficile de, encore, respirer. C'est quoi la neige? C'est beau en bas, un beau pays, des taches sombres, des taches claires, de belles couleurs. Difficile de dire quoi, peut-être des villes, des maisons, des gens, peut-être des montagnes, des vallées, des fleuves et même des lacs. Peut-être des routes, des écoles, des églises, des usines, des bureaux, des arbres, de l'herbe, de la terre labourée. Est-ce que c'est déjà là? Est-ce que c'est là le paradis que l'on t'a dit, toujours dit? Cela se rapproche. Cela descend doucement et toutes ces choses-là en bas qui s'agrandissent et deviennent plus précises. Des routes, des autoroutes, des bois, des arbres, des rivières et des lacs, des toits, des fenêtres, des parkings, des immeubles, des maisons, des écoles, des magasins, des parcs et des jardins, des piscines, des nuages, des brumes et des fumées, tout est beau. Peut-être, oui, le paradis si souvent dit. Cela se rapproche, et si tu voyais encore, tu verrais ces voitures, tous ces gens en chemin. Des gens seuls, des gens nombreux, des familles, des amis, des grands et des petits, des enfants et puis des chiens, des vaches et des moutons, le monde ici. Tu ne bouges plus, tu as froid. Et puis cette roue qui t'a jusque-là protégé, la voilà qui se met à remuer, qui vers le bas se penche comme pour mieux te faire glisser, t'inviter à glisser, et alors tu glisses, tu sors enfin de ta cachette et vers le bas tu t'en vas. Le bas, là-bas, si proche, le bas juste là qui approche. Cette fois tu y es. C'est beau ici, ce pays. Tout est beau et cela se rapproche. Tu t'en vas, bras ouverts.
Dans l'appartement de Naples, Anne se rhabillait. Elle cherchait ses soquettes par terre. Elle en ramassa une au pied du fauteuil. Elle entendit derrière elle la voix de Léo, toute déchirée. Ce n'était pas sa voix habituelle. C'était une grosse voix d'enfant qui résonnait derrière elle.
« Ne vous rhabillez pas !»
Elle se retourna juste pour voir. Il pleurait en effet. Il tripotait comme un enfant le drap du dessus. Il s'essuya les yeux dans le drap. Il s'assit contre l'oreiller.
« Vous ne pouvez plus partir comme cela. Je ne peux plus vous voir partir. Je ne supporte plus de vous voir vous habiller dans l'aube et partir rejoindre votre île. »«
Oui. »«
Je suis si seule. »«
Je sais. »
Elle enfila sa culotte. Elle boutonna son jean. Il dit tout bas.
« Anne. »«
Oui. »«
Partons. »
Elle ne répondit pas, puis...
« Oui. »
Puis...
Peut-être.
Il reprit.
On prend le bateau.
Oui.
Partons comme des voleurs.
Oui.
On monte dans le ferry, on fonce à l'aéroport, on arrive où vous le souhaiterez. Je rachète tout, je vous habille de nouveau.
Vous me rhabillez ?
Dit-elle. en finissant de reboutonner son chemisier.
Aujourd'hui même, on se donne juste l'après-midi. On se retrouve à l'embarcadère à 8 heures, devant le marchand de billets.
Elle s'assit sur le bord du lit et noua les lacets de ses baskets blanches.
« Non !»
dit-elle enfin.
« Mais pourquoi ?»«
Car on aura le même souvenir partout. Chaque fois, le visage de l'autre ranimera sa souffrance. Désirez-vous savoir ce que je pense ?»«
Surtout pas !»
Elle avait enfoui sa tête sous le drap. Elle dit cependant
« Je pense que non seulement il ne faut pas partir ensemble. Je pense que non seulement il ne faut pas que nous vivions ensemble. »
Il cria dessous son drap.
« Anne, ne dites pas ce que vous vous apprêtez à dire.
Je pense qu'il faut nous quitter. »
Elle alla vers le lit. Alors elle embrassa la tête cachée sous le drap. Elle partit. Arrivée à la porte d'entrée, elle l'entendait qui pleurait encore. Elle laissa les clés de l'appartement sur le marbre de la commode.
Tu es contente de partir ?
Je ne sais pas où on va.
Tu sais où on va enfin, Frédéric ?
Je le saurai en arrivant.
On va à Tel Aviv, tu le sais.
Je ne peux pas être content avant de savoir où j'arrive. De connaître ce qu'il faut savoir pour être content. Je saurai au présent, si je suis content d'arriver, quand on y sera, quand on sera là-bas.
Tu as fait ta valise ?
Oui, mère.
Ne m'appelle pas mère.
Mère ? Tu es ma mère. Hein ?
Tu l'as pesée ?
Ah oui, la pesée. Je me suis pesée avec la valise, je me suis pesée sans. La différence entre moi avec et moi sans est de 19 kilos et 600 grammes.
C'est parfait alors.
On part, c'est fait. On émigre en Israël.
Ne dis pas n'importe quoi.
Mère, nous partons vivre en Israël, n'est-ce pas ?
Nous partons en Israël comme nous sommes partis en Norvège, puis en Allemagne. Nous suivons votre père au gré de sa carrière professionnelle. Nous n'émigrons pas. Une banque décide de notre vie. Une banque nous condamne à l'errance. Une banque nous fait tourner en bourrique. Ce n'est pas si simple de nourrir une famille. Tu le comprends, non ? C'est ainsi que vit la nôtre.
« Maman, tu déclames tes phrases comme une grande tragédienne. »«
Allez, cesse de dire des âneries et vide le lave-vaisselle. »«
Je suis venu te dire que je m'en vais. »« Et tes larmes n'y pourront rien changer. »« Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. »« Je suis venu te dire que je m'en vais. » Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, t'aimer, puis aimer. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Lecture nomade en trio.
L'atelier d'écriture a travaillé autour du thème du départ. Voici trois de leurs productions.
Le départ. J'avais mis la semaine à faire entrer mon armoire dans le sac à dos. Départ pour la Grèce, 3 semaines en camp itinérant. 24 kilos, ils avaient dit. 36. Éliminé. La boîte de médoc, la crème anti-bronzage, un jean, 2 t-shirts, 35 kilos et demi. 7 paires de baskets, 35 kilos 2. 3 strings, pas CD, pas baladeur, pas MMS. Duvet, t'as pas un duvet moins lourd? Je peux plus rien lever, déjà trop peur de ce qu'il va me manquer. Bon, 2 shampoings, 2 démaquillants, 2 rouges à lèvres, 2 fards à paupières, au cas où sur l'île, il n'y aura pas la marque, hein, pas la même marque. Je le dis toujours à mes parents, ils m'ont fait trop petite. Le duvet dépasse au-dessus de ma tête, les gamelles dans les coudes. Il y en a presque derrière les genoux. Je me suis fait un plan de tout ce qui se trouve dans chaque poche. Et j'ai dû rajouter 2 sangles pour le tenir en tirant vers l'avant, sinon je tombe à la renverse. 26 kilos, bon, ça passera. Et ma mère qui gesticule, 24, hein, c'est 24. Elle avait pas raison. À 25, ça passe. Juste 1 kilo à laisser dans le hall de l'aéroport, bref. Envelopper le barda avec un maxi sac plastique et faire un nœud, pff, galère, hein. Passer le sac à main au bip, et il bip, bien sûr. La lime à ongles? Ma mère veut la prendre. Pas question. Mais tu t'en feras prêter une? Pas question. Défaire le nœud récalcitrant et glisser la lime, vite. Le refaire. On m'appelle. Passeport, bisous, 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 viteuf. Je passe la barrière et c'est parti. Mais c'est elle qui part. Plantée de l'autre côté. Dans le hall, un chien traîne sa queue. On ne revient jamais au départ, qu'elle dit ma mère. Jamais au départ. Il faut que je lui envoie un SMS. Bon, je la retrouverai à la maison, moi. Maman a rapporté à sa sœur un dessin qu'on aurait dit un dessin de Sampé. Tu connais, toi? Ou un Tex Avery, tu sais, des trucs de vieux. Bon, moi, je la retrouverai, la maison. Je la retrouverai, ma maison. Alors, c'était Michel Villeneuve.
Il m'a dit, attends-moi là, je reviens tout de suite. Comme ça, sans même une caresse. Et il a tourné les talons. Je me suis recouchée et j'ai attendu. Attendu. La rue se remplissait de monde. Des godasses, des bottes, des bottines, des mocassins, des tennis, des escarpins, des chaussures, en veux-tu, en voilà. Ça piétinait et ça puait. Ça faisait du surplace tout ça, dans un brouhaha infernal. Des bruits de sono, des chansons chantées faux, des slogans à répétition. Une voix d'homme a gueulé « Tous ensemble, tous ensemble !» repris en chœur par d'autres voix. Ça me vrillait les oreilles tant et si bien que je ne savais plus où j'étais, ce que je devais faire. Et puis j'avais des fourmis dans les pattes. Je suis pas fait pour attendre. Un mouvement de foule, de houle. J'ai suivi, quitté ma place entre le café et le boulanger. Parti, tant pis pour lui. Avec le foulard rouge qu'il avait attaché autour de mon cou, j'avais belle allure. Je me fondais dans la masse en mouvement. Du rouge, il y en avait partout. Les guiboles s'écartaient pour me laisser passer. Il y en a même qui m'ont remarqué. « Oh, un claps coco !» Et on marchait et on marchait. Le bitume avait de plus en plus les relents de vieilles chaussettes. J'ai pissé contre la roue de la camionnette de la CGT qui était à l'arrêt. Un vieux, avec une canne, s'est approché en clopinant, m'a regardé un moment, et puis il a dit « D'où que tu sors, toi ?» J'en savais rien d'où je sortais, moi, quelle question. J'ai reniflé sa canne, au vieux. Ça sentait le bois, les feuilles mortes, le vent dans les arbres. Ça sentait loin. Il m'a caressé entre les deux oreilles, m'a dit des mots que j'avais jamais entendus. Il a ouvert les portes arrière de la camionnette, m'a dit « Monte, je t'emmène ». Ça tombait bien, j'avais une patte qui ne faisait plus. À force de rester couché à attendre je ne sais quoi, j'avais chopé des rhumatismes. Le vieux a fermé les portes. Il est monté à l'avant et il a pris le volant. Tout autour, ça continuait à défiler et ça gueulait de plus en plus fort. « Tous ensemble, tous ensemble !» Le vieux a mis le contact. « Moi, c'est Marcel qui m'a dit. » Et on est parti. Direction République.
Et c'était une production d'Elsa.
À peine eut le temps de voir qui se trouvait là. Une robe verte presque vue, une main sur la poignée, puis plus rien. La porte reste ouverte à demi, silencieuse, plus rien. Un léger courant d'air referme la porte, la rue se reflète à nouveau dans la vitre. Le balancement des marcheurs imprègne le verre, un lacet défait, l'homme s'arrête, refait son nœud, puis repart. Il a disparu immédiatement, sans bruit, évanoui. Pleine saison des migrations. Les oies sauvages s'effacent derrière les collines et les passants se dissolvent dans les vitrines. Le silence envahit tout et rebondit sur les murs de la ville. Un rayon de soleil vient réchauffer la devanture de la brasserie. Le reflet est attaqué, brûlé, détruit. L'intérieur se fait sentir. Autour des tables en bois, presque le bruit des couverts. Une vieille main tremble au-dessus d'un éclair, un guépard attend, tapis, en toile de fond. Elle termine son café, lui tend un sourire et enfile son imper vert. Elle traverse la salle. Elle vient de le quitter. Le soleil est parti. La porte s'ouvre et laisse échapper un peu de verre qui glisse doucement sur la vitre et s'enfuit. À peine eut le temps de voir. La rue est de nouveau dans la vitre.
Et alors, c'était une production de Chloé.
Vous avez entendu, dans l'ordre d'apparition de passage, un extrait de « 100 ans » de Herbjørg Wassmo, « Partir » de Tahar Ben Jelloun, « Pierre et Jean » de Maupassant, « Ulysse from Bagdad » de Éric Emmanuel Schmitt, « La valse aux adieux » de Milan Kundera, un poème de Baudelaire, « L'invitation au voyage », « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, « Le bonheur » de Emmanuel Darlé, « Villa Amalia » de Pascal Quignard, et « J'apprends l'hébreu » de Denis Lachaud.
Elle a oublié Rimbaud. Rimbaud, partir, le petit poème. Il était un second.
Exact.
Pardon. Vilaine.
Le trio Lecture Nomade vous dit au revoir et vous dit à très bientôt. Lecture Nomade en trio.
Avec
Claudine,
Geneviève
et Christiane.
Pour voyager,
pour rêver,
pour vagabonder,
s'évader
et s'indigner parfois.